Vous écoutez
RMC.
On va se tourner vers les États-Unis, Maxime. C'est vrai que les États-Unis sont attendus parce qu'il y a des joueurs très connus, notamment qui jouent en Europe et même en Ligue 1. Ce USA Paraguay, est-ce que tu... Alors, tu me fais une grimace déjà.
C'est toujours très compliqué.
Bah. C'est vrai que Pochettino est quand même beaucoup critiqué. C'est l'entraîneur des États-Unis. On fait que de dire qu'a priori, il prend son chèque et après le Mondial, il va quitter la sélection. Il y a eu ce match amical face à l'Allemagne qui a été perdu 2-1. C'était à Chicago. Donc pour toi, ils sont pas bien préparés pour cette entrée dans leur mondial ?
Écoute, là j'ai un gros point d'interrogation sur l'équipe nationale américaine. Si tu veux être mon avis très franc, Karine, je pense qu'ils étaient plus armés il y a 4 ans qu'aujourd'hui. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'attentes sur cette équipe américaine. Déjà parce qu'évidemment la compétition est sur leur sol. Ça c'est une première chose. De deux, tu l'as très justement dit, tu as des joueurs qui arrivent à maturité. Je pense à Pulisic, je pense à McKenny, le joueur de la Juventus de Turin. Et puis surtout, tu es censé avoir un super coach, un grand coach, Pochettino, qui a l'expérience de l'Europe et notamment, par exemple, du côté de Tottenham. Mais c'est vrai que quand je regarde leur match amico et le dernier contre l'Allemagne, quand tu regardes justement un petit peu leur bilan, tu te rends compte que les Américains sont incapables de pouvoir battre les grandes nations. Ils ont perdu contre la Belgique, ils ont perdu aujourd'hui contre l'Allemagne. Ça devient très très compliqué quand tu veux faire un bon parcours dans une compétition comme la Coupe du Monde. On le sait à quel point c'est une compétition qui est relevée d'un point de vue de niveau. Si tu n'es pas en mesure en match amical de pouvoir battre les grosses nations, je me dis que c'est un petit peu compliqué. Donc pour revenir justement d'un point de vue footballistique sur cette équipe, devant ça fonctionne très très bien. Tu l'as dit avec un Balogun qu'on connaît du côté de la Ligue 1 de Monaco qui a fait une très très belle saison. Un Pulisic qui est un petit peu notre golden boy ici aux États-Unis, un petit peu à l'instar d'un Kylian Mbappé. Un McKenny, comme je t'ai dit, qui fonctionne très très bien du côté de la Juventus de Turin. Timothy Weah, qu'on connaît bien aussi du côté de l'Olympique de Marseille. Même un Tyler Adams qui fonctionne en Première Ligue. La grosse incertitude qu'on a au côté du côté des États-Unis, c'est vraiment cette défense qui est vieillissante. Et pour te dire à quel point la défense est vieillissante, on a même Tim Raheem qui a 39 ans, l'ancien joueur de Fulham qui aujourd'hui est à Charlotte en MLS, qui est d'ailleurs le capitaine de cette équipe. Et quand tu te rends compte qu'un joueur de 39, presque 40 ans, se retrouve à jouer titulaire dans une équipe qui est censée faire une belle Coupe du Monde, je me questionne quand même sur le fait que je pense que les Américains ne sont pas forcément armés aujourd'hui pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit, en tout cas dans cette compétition.
C'était une surprise de ne pas avoir Tesman ou pas ?
C'était pas forcément une surprise, et même du côté de Lyon, hein, quand tu regardes, c'est vrai que c'était très surprenant de le voir se faire cette saison. Je pense que très peu l'attendaient. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été laissés sur le côté, notamment James Sands aussi, qui joue en Allemagne. C'était la même chose avec Tesman. Je pense qu'aujourd'hui, les Américains ont un milieu de terrain bien fourni. Surprise, oui et non. Comme je te dis, la grosse problématique qu'ont les Américains aujourd'hui, c'est vraiment le vivier défensif. C'est vraiment le manque criant de qualité en tant que défenseurs centraux, d'ailleurs, notamment. Mais c'est vrai que de pas voir Tesman aujourd'hui dans cette équipe, après les noms que j'ai cités, non, c'est pas forcément une surprise, Kevin.
On rappelle qu'il y a des problèmes évidemment de gardien, parce qu'il n'y a pas vraiment de gardien numéro 1 qui se dessine.
Maintenant, c'est ça. D'ailleurs, c'est mon ancien coéquipier du côté de New York, Matt Freeze.
Il était même en chambre avec
exactement,
lui.
Exactement, qui avait la particularité de manger des chicken tenders, excuse-moi pour la traduction, à 2h ou 3h du matin. Donc c'était pas forcément très très professionnel, mais tu vois, ça l'a emmené jusqu'à une place de titulaire en équipe nationale, et qui risque d'ailleurs de faire le grand saut derrière en Europe, parce que c'est vraiment un gardien plein de qualité. Mais c'est vrai que pendant longtemps, Pochettino a cherché un petit peu son numéro 1, mais je pense qu'il l'a trouvé avec Matt Freeze.
Et des soucis notamment en défense. On l'a dit, ce mondial se joue évidemment dans 3 pays. On a eu la cérémonie d'ouverture au Mexique. Place maintenant à Los Angeles, où on va retrouver Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Ça y est, les États-Unis se préparent pour leur Coupe du Monde, parce qu'elle va vraiment commencer pour eux avec ce match entre les USA et le Paraguay. Le match va avoir lieu donc à Los Angeles. Dis-nous tout sur cette deuxième cérémonie d'ouverture.
Alors c'est une cérémonie qui normalement ne sera pas pareille que celle qu'on a pu voir hier du côté de Mexico. C'est une cérémonie qui va durer 13 minutes au total, une cérémonie d'ouverture qui... Du côté de la FIFA, on promet un show à l'américaine, notamment avec l'apparition de Katy Perry qui va venir interpréter l'un des titres du mondial sur la scène de ce SoFi Stadium. D'ailleurs, il faut pas l'appeler le SoFi Stadium, il faut l'appeler le Stade de Los Angeles, parce qu'autrement,
on tape sur les doigts.
Parce que exactement, le SoFi Stadium, c'est n'est pas un partenaire de la FIFA. Donc voilà, on va avoir notamment Katy Perry qui aurait pu peut-être aller faire la cérémonie d'ouverture du côté du Canada, vu sa relation avec l'ancien Premier ministre canadien. Mais bon, elle est du côté de Los Angeles. On aura aussi Anita qui viendra interpréter l'un des titres du mondial, parce que vous savez, la FIFA maintenant a même un FIFA Sound, c'est-à-dire que ils produisent des titres pour la Coupe du Monde. Et puis, peut-être qu'autour de la table, vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. C'est un groupe de country qui va venir interpréter l'hymne national américain, parce que ça sera un moment très important pour ce premier match sur le sol américain. C'est Dan plus Shai. Peut-être que Max connaît autour de la table, mais moi, je ne connaissais pas. Donc je viens
je suis pas un grand fan de country, mais écoute, je vais m'y mettre.
Ah, voilà.
Non, je ne connais pas.
Pourquoi ils n'ont pas pris Taylor Swift? Elle faisait de la country avant.
Ah, mais il faut leur poser la question, Karine. Oui, en effet. Ouais.
Elle faisait pas de la country au début? Non, Nico, ouais, t'as pas l'air au taquet là.
Non, je n'étais pas sûr.
Il en faut pour tout le monde, c'est bien, au moins, il varie un peu les goûts.
Exactement, c'est exactement cela qu'on nous a répété lorsqu'on nous a expliqué cette cérémonie d'ouverture. Et puis, c'est un match qui va se dérouler. Alors, on a vu au Mexique, il y avait une ferveur impressionnante. C'est un match qui va se dérouler pour le moment. Il n'est pas guichet fermé. Pour le moment, il y a encore des places qui sont en vente pour ce premier match sur le sol américain. Et puis, ça sera un match sans Donald Trump.
Vous le savez, on est en direct des États-Unis pour vous faire vivre ce mondial 2026 en direct des États-Unis de New York. On est avec vous jusqu'à 5 heures du matin. Vous qui vous le levez peut-être avec nous. On était en train de parler donc des États-Unis et du prix des places, parce que c'est vrai que Nico Pelletier qui est avec nous nous disait US à Paraguay, il y a une cérémonie d'ouverture, il y a des stars mondiales, Katy Perry. Mais il y a un stade qui n'est pas à guichet fermé. Ça, c'est quand même un couac dans une organisation d'un mondial.
Mais on l'a dit un peu plus tôt, Karine, ça s'expliquerait peut-être aussi par le prix des tickets. Hein. Aujourd'hui, il faut prendre en considération que c'est énormément d'argent de venir aux États-Unis pour déjà voir la Coupe du Monde. Donc, tu as déjà les transports qui te coûtent de l'argent. Tu as l'hôtellerie qui te coûte aussi beaucoup d'argent. Hein. Tu sais qu'aux États-Unis, à New York ou à Los Angeles, les prix des hôtels sont quand même assez élevés. Si en plus de ça, tu rajoutes le prix des tickets, ben, pour le commun des mortels, ça devient tout de suite très cher.
Oui, c'est sûr. Et puis,
mais Max, on est quand même dans une ville qui aime bien le soccer. Enfin, je parle sous ton contrôle.
Il y a deux clubs.
Dans une ville qui est peut-être passionnée, la plus passionnée pour le soccer aux États-Unis.
Alors, je serais surpris de savoir. J'ai déjà ma réponse à la question. C'est-à-dire que si jamais le Mexique était venu jouer, par exemple, à Los Angeles, je suis convaincu, par exemple, que le stade aurait été rempli. Si la Corée du Sud venait à jouer à Los Angeles, je suis convaincu aussi que le stade serait rempli. Est-ce que finalement, il n'y a pas un désintérêt? Il y a une grosse diaspora là. Le premier match, Jung Min-sun, quand il arrive à Los Angeles FC, ils ont vendu 35 000 tickets uniquement des Coréens, des Sud-Coréens, ce qui était assez surprenant. Enfin, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, je sais pas s'il n'y a pas un désintérêt de l'équipe nationale américaine. Je pense que ça, j'ai envie d'être un peu prudent par rapport à cette analyse. Une chose est sûre, c'est que niveau Paraguay, je pense qu'il y a évidemment peut-être un peu moins de Paraguayens du côté de Los Angeles. Je serais curieux aussi de savoir si jamais les États-Unis devaient bien commencer leur compétition en gagnant un ou deux matchs, si un petit peu l'ambiance générale dans le pays changerait un petit peu. Parce que c'est vrai que nous, ici, on est à New York et on parle un peu plus quand même des Knicks actuellement, de la NBA, plutôt que de l'équipe nationale américaine. Donc attendons de voir ce que ça va donner. Une chose est sûre, c'est que les Américains, ils ont entre guillemets le ballon entre leurs pieds et voilà, ils ont juste à gagner pour essayer de prendre le public avec eux.
C'est ce que m'expliquait d'ailleurs un journaliste qui suit la Team USA au quotidien. Il me disait, en ce moment, c'est pas le moment de parler du soccer ici aux États-Unis. On parle de la NBA. Il y a plein d'autres finales nationales qui se déroulent en ce moment même et qui sont diffusées à la télé au grand public. Et c'est beaucoup plus important pour les Américains en ce moment. Peut-être que derrière ces finales, on s'intéressera à cette Coupe du Monde, mais c'est pas trop le moment niveau sport de s'intéresser au soccer pour le moment.
Kevin, non, mais... c'est quand même dingue en fait de se dire, on a plein d'excuses pour expliquer qu'en fait les États-Unis, qui, on le rappelle, ont le plus grand nombre de matchs dans cette Coupe du Monde, ne s'intéressent pas pour l'instant à leur mondial, alors qu'ils l'ont voulu. Hein.
Non mais je le disais un peu plus tôt, faut savoir quand même que les États-Unis c'est pas un pays de compétition internationale pour les sports collectifs. Aujourd'hui le football américain ça n'a lieu qu'aux États-Unis. Le basket pour eux il n'existe que le basket en NBA. L'Euroleague c'est à peine s'ils regardent. C'est pareil pour le hockey, il y a que la NHL qui compte. Et donc les compétitions internationales ils ont ce patriotisme, mais je suis pas sûr que pour eux ce soit vraiment ce qu'il est. C'est quand même un football plus de franchises que des franchises d'ailleurs qui pour les non initiés peuvent carrément changer de ville, c'est-à-dire qu'il y a des franchises qui peuvent changer de région, changer de département quoi, et c'est quand même très très particulier. C'est un sport de franchise, mais c'est pas un sport de pays, en tout cas le football ou les grands sports américains.
Et pour appuyer l'analyse de Kevin, Karine, c'est intéressant parce que alors tout ce qui est baseball et basketball, quand ils gagnent donc la NBA ou même la MLB, ils sont considérés comme champions du monde alors qu'ils ont ont uniquement finalement gagné le championnat américain. Mais tu vois, c'est pour te dire comme quoi les Américains sont tellement
focus sur leur...
Oui, de toute
façon, il n'y a que les États-Unis.
Exactement, sur leur championnat. Alors après, c'est vrai que la Coupe du Monde appartient aussi à tout le monde. Il y a énormément de pays, on l'a dit, 48 équipes, donc 48 nations.
Donc, non, mais c'est pas un sport de foot. Aujourd'hui,
un pays de foot.
C'est pas un pays de foot. Aujourd'hui, c'est un pays de foot pour les Latino-Américains.
Il y a de ça aussi. Pense dû aussi à l'immigration en effet qu'on connaît aux États-Unis. Après, quand tu regardes aussi les féminins, l'équipe féminine américaine qui fonctionne bien. Enfin, là, on parle quand même. Enfin, je suis en train de regarder les images. On n'a pas un stade qui est à moitié vide quand même. Hein. Après, il y a aussi une chose à prendre en considération, messieurs dames. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains, quand ils viennent voir un match, ils viennent voir un spectacle. Le spectacle est très large. C'est-à-dire que ça passe par aller chercher ta bière et ton dog au stade, puis aller voir le match. Moi, ça m'était pas rare quand je jouais à New York ou à Los Angeles, un peu moins à Los Angeles, mais surtout à New York, où sur les 20 premières minutes, il y avait personne au stade et en fait tout le monde était dans les couloirs pour aller attendre leur bière et après 20 minutes, tout le monde sortait. Donc voilà, il faut voir par rapport à l'affluence. Évidemment, après il y a le nombre de tickets vendus. Hein. Je pense que ça, tu peux pas tricher par rapport à ça, mais
alors de dire. Au Yankee Stadium.
J'ai joué au Yankee Stadium, ouais.
Avec les New York City.
Ouais, pas facile, hein. Un terrain de foot dans terrain de baseball. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a perdu, je crois, qu'un match en 10 ans. Parce que toutes les équipes qui arrivaient là, elles étaient complètement perdues. Parce qu'en plus, le terrain était beaucoup plus petit. Je crois qu'on avait un terrain de 10 mètres plus petit que les autres terrains. Ouais, c'était un peu compliqué. On avait eu une dérogation de la part de la Ligue qui était censée durer 2 ans et qui finalement a duré 10 ans.
Et qui dure toujours parce qu'il est en construction, le stade.
Normalement,
toujours pas
je pense que la saison prochaine ou dans 2 saisons. Ouais,
mais là, ils jouent où, New York City?
Toujours au Yankee Stadium. Ouais.
Mais ils mettent de la pelouse quand même.
Ouais. Alors au-dessus justement de la terre battue. Alors des fois, t'as un peu le terrain qui est pas très droit.
Ouais, c'est ouf ça.
Mais le stade, même
j'ai
si
déjà
c'était
été voir
ton
un match,
équipe ennemie des Red Bull,
j'ai déjà
est très
été
bien.
Voir un match de New York City au Yankee Stadium. Peut-être que tu jouais. Faut que je regarde.
Bien sûr, hein. Regarde.
Dans quelle année
Regarde celui qui avait le brassard et qui a sûrement un marqué.
Okay,
un
j'ai une photo, je vais regarder ça.
Mais tu te souviens pas de l'année?
Kevin vient tellement aux États-Unis qu'il se souvient plus. C'est trop fréquent pour lui.
2018, je crois.
Ah ouais, j'étais là.
En revanche, pour vous compléter un peu le portrait de Los Angeles, je pense que demain, niveau télé, c'est-à-dire dans la nuit de samedi à dimanche, pardon, pour vous, je suis un peu perturbé, dans la nuit de vendredi à samedi, on va y arriver, ce match entre les USA et le Paraguay, en revanche, je pense que tout le monde sera impressionné par le stade de Los Angeles. C'est l'un des plus beaux stades de cette compétition. 70 000 personnes, s'il est plein, peuvent assister à cette rencontre. Et c'est peut-être, je suis rentré là-dedans tout à l'heure, c'est exceptionnel de voir ça. Et il faut penser à cela. Lorsque vous regarderez peut-être le match demain soir, il faut penser qu'en 2028, il y aura la natation dans ce stade aux Jeux Olympiques et ça s'annonce aussi exceptionnel de vivre ce moment-là.
Et c'est aussi la raison d'ailleurs pourquoi les États-Unis ont tant de matchs sur leur sol. On se posait la question pourquoi c'est presque, enfin, il y a très peu de matchs finalement au Canada et au Mexique. C'est parce que les infrastructures américaines sont juste exceptionnelles. Là, t'as parlé de ce stade-là, mais ça va être la même chose à Foxborough du côté de Boston. C'est la même chose ici à New York du côté du MetLife. Enfin, aujourd'hui, les Américains, même si évidemment ils ont beaucoup de retard d'un point de vue footballistique à proprement parler, mais c'est vrai que niveau infrastructure, et ils bénéficient justement de l'attrait du football américain, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier des stades du football américain. Mais c'est vrai que quand tu regardes les stades à proprement parler, on a beaucoup de chance d'être aux États-Unis pour cette Coupe du Monde.
Merci beaucoup, Nico.
On a été dur ces derniers jours, mais il faut quand même signaler, et Max l'a dit tout à l'heure, avec la communauté mexicaine ici à Los Angeles, on a quand même vécu une très très belle journée dans la fan zone de Los Angeles. Elle était remplie et là on a vraiment passé une journée Coupe du Monde niveau ambiance, donc c'était vraiment sympa de vivre ce moment.
Et on espère que demain donc ça sera plein pour cette deuxième cérémonie d'ouverture et l'entrée en lice des USA Paraguay. On suivra ça évidemment sur RMC également en direct. Belle nuit à toi, Nico. Merci beaucoup.
Ciao, bonne soirée les amis.
Bonne soirée à toi. Salut. On va tout de suite retourner au Mexique. Vous le savez, il y a donc ce deuxième match de la compétition entre la Corée du Sud et la Tchéquie. On est avec Valentin Jamin. Valentin, première poste fraîcheur pour les deux nations. Est-ce qu'il y en a une qui a pris l'ascendant ou pas?
Alors plutôt la Corée qui au moment où on s'est quitté autour de la 10e minute de jeu a appuyé, a accéléré, une lourde frappe notamment de Kang In Lee à l'entrée de la surface repoussée sur sa gauche par Kovar. Juste avant, il y a eu un bon appel en profondeur du joueur de Mayence Lee Yae-sung qui avait remis en retrait pour Heung-min Son qui a tiré au-dessus, l'ancien joueur de Tottenham, une tête également sur corner du défenseur Lee Man-beun. Donc ils ont poussé les Coréens sans marquer et puis depuis quelques minutes la République tchèque est remontée un petit peu, notamment avec un corner il y a quelques instants de la droite vers la la gauche, et Souček qui a piqué au premier poteau le joueur de West Ham, mais qui n'a pas réussi vraiment à frapper. Donc petit avantage, on va dire, au point pour la Corée, qui techniquement est un peu supérieure. Les Coréens qui veulent évidemment sortir de la poule, tout comme la Tchéquie, poule ouverte, on l'a dit. Mais les Coréens, avec leur expérience, eh bien, pourraient viser, peut-être comme lors du dernier mondial 2022, à 8e de finale, ils s'étaient fait éliminer par le Brésil. 25e minute de jeu. C'est la fin de la cooling break, mais là on a vu aussi coaching break, puisque le sélectionneur coréen a replacé certains joueurs, a fait quelques ajustements, et l'ambiance est en train peut-être de monter petit à petit, parce qu'on entend beaucoup les Coréens sur les phases de possession crier, chanter pour leur équipe. Il y aura un coup franc assez lointain pour la Corée à cette reprise de jeu au milieu de terrain. Wang In-beom au ballon, on est à 35-40 mètres, légèrement décalé côté droit. Il a été joué court, on va aller voir sur le côté droit complètement justement avec Lian Beom. Le petit ballon par-dessus, c'est bien joué dans le couloir pour Siyoung Bing qui centre, récupéré premier poteau par un Tchèque, et Pavel Sulc qui va réussir à contrôler le ballon devant sa surface et même à gagner une faute. Il va la jouer rapidement, un long ballon dans le couloir gauche qui finalement ne va pas trouver preneur, et même je sais même pas si on va pas rejouer le coup franc, puisqu'Amin Mohamed, l'arbitre égyptien de cette rencontre, fait signe. Il y avait un jeu sur le petit ballon tout à l'heure coréen sur le côté droit de l'attaque. Toujours 0-0, donc 27e minute de jeu dans cette partie, et on va changer le maillot de Pavel Sulc puisqu'il s'est fait accrocher.
Il a complètement été déchiqueté. Ouais.
L'équipementier avait déjà eu des petits problèmes. Je me rappelle sur des compétitions, lorsqu'on tirait.
Un problème de maillot là.
Il a
à peine été accroché par un adversaire, et on dirait qu'il s'est fait attaquer par un requin, quoi.
Petit tirage de maillot, et Pavel Sulc, il est peut-être habitué, parce qu'on sait qu'il est très proche de son chat à Lyon, donc peut-être qu'il a déjà eu ce type de problème.
Le chat est pas aussi dangereux.
Et plus sympa, ouais, t'as raison. Donc on va changer de maillot pour la Tchéquie.
Pour revenir sur ce match-là et la tactique de la République tchèque, ça. C'est surprenant de la manière dont ils se positionnent. Ils sont quand même assez bas. Hein. On sent vraiment deux équipes frileuses. Hein. Bon, les Sud-Coréens ont tendance à un petit peu plus presser, mais c'est vrai que les hommes de Koubek, là, moi, je suis assez surpris, moi, de commencer cette compétition comme ça. Je sais que c'est le premier match. Il faut y aller à 200%. Alors, il faut être prudent. Je l'ai dit,
c'est pas une équipe très entreprenante. Hein, mais c'est vrai que c'est surtout les Coréens qui sont quand même. Ils défendent en avançant. Ils sont proactifs avec le ballon. Ça va vite vers l'avant. On l'avait dit, mais c'est une bonne équipe.
T'as parlé de Miroslav Koubek, Maxime, qui bat un record, hein, qui devient le plus vieux sélectionneur à officier en Coupe du Monde, 74 ans et 283 jours. Il bat Hugo Broos, qui cet après-midi a déjà battu le record avec l'Afrique du Sud. Il va être battu par le sélectionneur de Curaçao qui a 78 ans, donc il faut qu'il en profite ce soir.
Ouais. Miroslav Koubek,
0-0, 27e.
On parle justement de la jeunesse au pouvoir, mais comme quoi, tu vois, Karine, l'expérience, hein. Ça remplace.
Moi, je suis pas pour le jeunisme.
Irremplaçable.
Moi, j'adore l'expérience. Il y a aucun problème. Écoute, moi, je trouve que par exemple Mourinho qui revient, tu vois, alors qu'il est à la soixantaine, c'est magnifique au Real. On est ensemble sur RMC.
Ça marchera pas, mais c'est magnifique.
Bah oui, mais ça me plaît. Il faut laisser la chance au produit quand même, Kevin. Tu voulais mettre qui?
Bah, en tout cas, sûrement pas un gars qui est cramé depuis 10 ans, mais bon, pas
trop. Oh là là, tout de suite, quelle horreur d'entendre ça. Cramé depuis 10 ans. Je te rappelle qu'il a fait gagner notamment une Coupe d'Europe à la Roma. Et ils étaient heureux, non?
C'est énorme, c'est énorme.
Eh bah oui, la Roma attendait ça. Et le peuple romain était heureux.
Il a été au Benfica, il a piteusement échoué.
Ça a été plus compliqué au Benfica, effectivement. On rappelle donc qu'aujourd'hui, c'est officialisé le retour de José Mourinho sur le banc madrilène.